Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez sur Saint-Etienne et sa périphérie, l'écoute en ligne et en stream également, on vous le rappelle, les www.radiodio.org. Troisième jeudi du mois, c'est le rendez-vous autour de la mémoire et du monde ouvrier stéphanois avec Le Grémos, notre partenariat bien sûr toujours en place tout au long de cette saison. Le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. On retrouve aujourd'hui deux de ses représentants, dignes représentants, avec la présence de Jean-Michel Stenner ici au micro. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Michel et Catherine Gauthier également. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission qui est la dernière de cette saison 2015-2016, saison radiophonique qui va reprendre du service dès la saison prochaine bien sûr. C'est une émission plutôt bienvenue en cette fin de saison, avant la coupure estivale bien sûr, mais avant la trêve nous allons parler des grèves bien sûr, parce que tout cela s'est gagné aussi à la lutte. Nous fêtons un anniversaire en cette année 2016, ce sont les 80 ans du Front Populaire, 36-2016, et cela fait l'objet de cette émission aujourd'hui, dont nous allons vous parler, et dont surtout Jean-Michel et Catherine, vous allez nous parler et nous présenter tout cela en long, large et travers. Le Front Populaire aujourd'hui, à l'honneur.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins, prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions. Peut-être pense-t-elle que les trains ont été faits pour voir paître les vaches. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
Bon, bah, c'est un magnifique extrait là que tu nous as trouvé, Jean-Michel. Alors, moi,
il manque les images.
Oui, il manque les images, mais
on les devine un peu.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire avec ce type de document. Alors moi, il y a deux choses qui me frappent, parce que du coup, c'est... Donc, je rappelle que toi, tu es historien et moi, je suis sociologue.
Oui.
Et du coup, sur ces documents-là, évidemment, il y a ce document d'archives qui peut nous parler à tous les deux. Mais alors moi, il y a deux choses qui sont peut-être un petit peu plus originales à souligner sur cette question des congés payés et du Front Populaire. C'est que les vacances, bien sûr, que c'est partir et c'est l'évasion, mais c'est aussi le fait de rompre avec, à la fois rompre avec les conventions, hein, ce qui est dit, et en même temps retrouver des liens, l'occasion d'avoir des liens privilégiés au sein de la famille.
Oui, c'est un petit peu ce que dit le documentaire en montrant ces images, alors, au départ sous fond de locomotives, de bruit de sifflets de locomotives, et où on voit donc des gens qui sont dans la gare et qui vont monter dans les trains. Donc l'idée, c'est partir, échapper au corset du travail, aux conventions, à tout ce qui marque
le quotidien
des travailleurs à cette époque-là. Et ensuite, effectivement, la deuxième partie, on entend moins, la musique est un peu plus planante et on a des bruits de vagues, des familles sur la plage. Mais on dit bien aussi que les enfants et les parents sont sur un pied d'égalité, qu'il y a cette idée de liberté, d'indépendance aussi qui émerge. Et donc il y a presque un côté métaphorique. L'indépendance des enfants, c'est aussi l'indépendance des parents acquise par ces congés payés. Et puis aussi l'image montre les corps. Pour la première fois, on voit des gens au bain de mer qui ne sont pas avec ces grands costumes de bain qu'on voyait encore dans les années 1920, mais on voit des maillots une pièce, voire même quelquefois des premiers maillots deux pièces, pas encore les bikinis, mais presque. Et puis la culture physique, comme on dit à l'époque, le corps qui s'expose au soleil, c'est vraiment l'image que montre ce documentaire et qu'on a retenu.
Alors c'est la libération des corps individuels, quoi. On peut profiter du soleil, de la nature, se dénuder, etc. Mais c'est aussi pour moi, tu vois, cette idée que les rapports intrafamiliaux vont pouvoir s'ouvrir les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport entre les parents et les enfants qui est à la fois plus étroit et plus libre. Mais la même chose entre les hommes et les femmes. Et c'est au sein de la famille et puis c'est au sein de la classe elle-même. C'est-à-dire que les rapports hommes-femmes vont pouvoir être moins sexués et ils vont pouvoir partager des moments de loisirs et des espaces de loisirs qu'ils ne partageaient pas de la même façon auparavant.
Oui, il y a quelque chose une vraie rupture là, mm-hmm. à la fois sur le plan de ce que tu dis, et puis c'est même l'existence même de cette rupture dans le temps du travail, dans le temps annuel qui semblait immuable depuis les débuts de l'industrialisation et qui tout d'un coup apparaît possible. Alors comme le dit le documentaire, grâce au gouvernement, grâce aux lois qui ont été votées par le gouvernement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, et je crois qu'il y a un petit texte qui nous le rappelle, Catherine, donc tiré du livre d'Étiévant, le texte qui évoque donc comment, de quelle manière on a accueilli cette nouvelle dans la France profonde. Là, c'est l'exemple de la Savoie.
Mmh. Alors, ce devait être en juillet 1936, se souvient le Savoyard, M. Carr, juste après la signature à Paris des accords de Matignon. Des délégués syndicaux de Chambéry sont arrivés en moto pour nous donner la liste de tous les acquis du Front populaire. Au fur et à mesure qu'ils annonçaient les nouvelles conquêtes, je voyais les gros yeux des gens grossir comme des phares de camion. D'un coup, comme ça, 40% d'augmentation de salaire, la semaine de 40 heures, les conventions collectives. Le plus drôle fut lorsque l'un des délégués annonça l'obtention des congés payés. Un paysan de Doucy s'est levé, tout ébahi, et a dit « Mais c'est quoi, ça, les congés payés ?» La salle a hurlé de rire. Faut comprendre, c'était tellement fou. « Non seulement on ne travaillera pas, mais en plus on sera payé pour ne plus travailler. Vous êtes sûr que c'est pas une blague ?» a poursuivi le paysan médusé.
Voilà, donc un texte qui évoque bien cet aspect surprenant. Mm-hmm. Alors, on va un peu nuancer ça tout à l'heure, mais cet aspect surprenant pour quand même la grande majorité de la population française, qu'est-ce que c'est que les congés payés ? Mmh. Alors, il faudrait, si tu me permets, que je revienne un petit peu sur dans quelle mesure, dans quel contexte oui. cette mesure a été prise. Et puis, l'idée que 1936, comme l'a dit Lionel, c'est une date, une mémoire qui marque la conscience collective française, et cette conscience collective, elle est marquée par les congés payés. Mmh. Alors il faudrait quand même rappeler que d'abord on est dans le contexte d'un contexte très très difficile, très angoissant, très anxiogène, hein, c'est le contexte de la montée du fascisme.
Mmh. Oui, et puis la crise de 29,
elle est pas très loin non plus. La crise de 29, c'est important de le rappeler, tu as raison, la montée des fascismes, et c'est en fait le Front populaire, c'est d'abord ça, c'est une réponse au risque représenté fascisme. Et quand est signé le 10 janvier 1936 le programme, ce qu'on appelle le programme du Front populaire, en fait, on n'a ni les congés payés, ni les 40 heures, ni la nationalisation des grands monopoles capitalistes, comme le disait. Le programme, c'est le pain, la paix, la liberté. Mmh. Et la CGT elle-même juge ce programme assez inconsistant. Les socialistes y voient en fait quelque chose qui est presque digne de la bourgeoisie, et même les radicaux qui vont faire partie de cette alliance trouvent que ça va pas assez loin. Enfin, certains radicaux, donc notamment Jean Zay, qui fait partie de ce qu'on appelle les jeunes turcs, trouvent que ça va pas assez loin. Alors cette timidité s'explique parce que, en fait, le Front populaire, comme je viens de le dire, c'est d'abord un rassemblement défensif. Alors ce qui va en faire, ce qui va lui donner cette ampleur insoupçonnée et surprenante finalement, mm-hmm. c'est le résultat des élections. Donc les élections ont lieu le 5 mai 1936 et pour la première fois, les partis ouvriers, Parti socialiste et Parti communiste, sont majoritaires.
Oui.
C'est la première fois. Oui. Et pour la première fois, le Parti socialiste passe devant le Parti radical. C'est-à-dire que jusqu'à cette date des élections, on pensait que, bon, on allait avoir une poussée, mais que le Parti radical resterait le premier parti.
Alors, avec ce programme que tu viens de nous annoncer.
Avec ce programme, voilà. Mm-hmm. Et donc, le Parti socialiste est en tête, ce qui lui donne le droit de prétendre à la présidence du Conseil. Donc, c'est Léon Blum qui va devenir président du Conseil. Et ça suscite, ça c'est le deuxième élément, une espèce d'élan populaire. D'où le mouvement de grève qui va éclater à partir du 10-15 mai 1936. Alors notamment pour une raison, je dirais, juridique, parce que les élections ont lieu le 5 mai, mais la Constitution prévoit qu'il y a un délai d'un mois avant que le gouvernement soit installé. Mmh. Et donc là, ça crée un sentiment d'impatience. Auquel s'ajoute le fait qu'il y a une panique du côté du patronat avec une fuite des capitaux. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui de grave qui risque de se passer. Donc ça, voilà, mouvement de grève qui éclate dans les...
Mais
à
partir de quoi elle se déclenche, cette grève ? Quel est le mot d'ordre ?
Alors le mot d'ordre, il va émerger petit à petit. Le mot d'ordre principal, justement, c'est sur la réduction du temps de travail, mais ça va être... plutôt les 8 heures, les 40 heures par semaine exactement. Mmh. Et puis le deuxième mot d'ordre, c'est l'augmentation des salaires. Parce que, comme tu l'as dit, on était dans une période de crise et depuis 5-6 ans, on n'hésitait pas, on trouve ça beaucoup de mentions dans la presse stéphanoise, on n'hésitait pas à réduire les salaires. Les patrons disaient, à partir de ce moment, c'est 10% de moins, 15% de moins, sans compter le chômage. Oui. Donc il y avait un sentiment aussi de précarité du pouvoir d'achat. Oui. Hein. Donc ça, c'est les deux choses. Et... ce mouvement qui est clos, qui devient massif à partir du 20-25 mai, il est là quand le gouvernement s'installe. Le 5-6 juin 1936, c'est l'installation du gouvernement Blum. Et il est tellement fort, il y a 2 à 3 millions de travailleurs qui sont en grève, avec occupation d'usine, ce qui en France est une première, une nouveauté, hein, le patronat est presque suppliant en demandant des négociations. Mmh. Et donc c'est les fameux accords de Matignon qui sont négociés dans la nuit du 7 au 8 juin. Tu vois que ça va très vite. Hein. Ah, oui, le gouvernement est installé le 6 juin. Du 7 au 8 juin, on négocie.
Un mois après.
Et alors, Léon Blum annonce le programme le 6 juin quand il fait son discours devant la Chambre. Donc il annonce la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, donc ce qu'on appelle les conventions collectives aujourd'hui. Les congés payés, ça ne vient qu'en troisième. Mmh. Les congés payés, ça ne vient qu'en troisième. Un plan de grands travaux, la nationalisation de la fabrication des armes de guerre. On pourrait ajouter quelque chose de très important, la prolongation de la scolarité de 11 à 14 ans.
Oui.
La réforme du statut de la Banque de France. Et puis, des augmentations de salaire. Quelquefois vont aller jusqu'à 40%.
Mais c'est vrai que finalement, toutes ces choses qui sont énoncées, en dehors des congés payés, c'est des choses qui font partie du cours normal d'évolution des droits des travailleurs.
Voilà, des revendications habituelles.
Voilà. Sauf que les congés payés, ça, c'est quelque chose de complètement nouveau.
On va voir que ce n'est pas si nouveau que ça, mais quand même, ce qui va être nouveau, c'est la généralisation. Tout à fait. Et donc, réformes que j'ai indiquées vont constituer avec de substantielles augmentations de salaire. C'est le menu des accords de Matignon. C'est plus tard qu'on viendra sur d'autres réformes, notamment la nationalisation des armes de guerre, etc.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et avant de revenir sur ces accords de Matignon et ces réformes généreuses, je vous propose de remonter un petit peu le temps et revenir finalement sur la campagne électorale qui a donné effectivement la victoire au parti de gauche qui compose donc le Front Populaire. Alors une campagne qui s'est déroulée je crois au printemps, donc du 26 avril au 3 ou 5 mai, Jean-Michel.
Oui.
Et durant la campagne, eh bien, le monde de la chanson a apporté sa contribution par la voix par exemple de Guy Sella avec ce titre « La voix du Front Populaire ».
Réveille-toi, peuple de France, il faut sauver l'humanité. Redresse-toi, reprends confiance, un souffle d'espoir est passé. Dès demain que notre patrie ranime son flambeau, l'univers entier nous envie, écoutons les échos. C'est la voix du Front Populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Rappelez-vous, 93, nos aînés se sont affranchis aux accents de la Marseillaise, ils ont sauvé notre pays. Arrêtons le danger qui passe, il faut être vainqueur. De nos aïeux suivons la trace, assemblons tous les cœurs. C'est la voix du Front Populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Dans les cités et les campagnes, allons camarades à l'avant, pour nos foyers, pour nos compagnes et pour le pain de nos enfants.
car la classe laborieuse ardente a proclamé qu'elle veut une France heureuse en pleine égalité. C'est la voix du Front populaire, c'est le sang de la liberté. C'est l'appel de la France entière pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain.
Bon, alors c'est vraiment un document extraordinaire qui rappelle, je trouve, magnifiquement bien et très imagé aussi, toutes ces thématiques de revendication de la gauche du début du XXe siècle. Alors moi, j'ai une question du coup qui me vient, Jean-Michel, c'est comment cette expression, exactement, puisque là on dit qu'on est dans la campagne, comment cette expression de Front populaire, est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte elle est apparue ?
Oui, alors la notion de Front populaire, elle est forgée... on dira après les événements du 6 février 1934. Donc l'idée de front, c'est l'idée de résistance face à la menace que représentent les ligues factieuses. Donc le 6 février 1934, les groupes d'extrême droite français ont plus ou moins essayé de prendre d'assaut le Parlement et de renverser la République.
Ouais.
Donc c'est l'idée d'une opposition, d'une résistance à cette menace qui s'est déjà concrétisée. En Italie en 1922 et en Allemagne en 1933. C'est justement la victoire des nazis en 1933 qui va réveiller un petit peu la gauche, qui est une gauche qui était divisée entre socialistes et communistes, avec donc l'idée, deuxième point, qu'il faut réunir, rassembler. Alors on l'entend plusieurs fois dans cette chanson, l'idée d'union, rassembler donc les classes populaires, pour éviter que les partis fascistes puissent jouer de ces divisions pour arriver au pouvoir. Mmh. Et dans cette chanson, je crois qu'il y a effectivement tout l'esprit du Front populaire. J'ai noté, il faut sauver l'humanité. Hein, il y a l'idée du danger qui passe.
Hein, ouais.
le fascisme est un danger. Et puis l'opposition entre le soleil qui brille, la rime soleil qui brille, et les 200 familles aussi. Les 200 familles, ça représente le patronat, le grand patronat. C'est une image assez classique pour l'époque. Donc il y a 200 familles qui gouvernent le monde. Et face à ces 200 familles, justement, l'unité des classes populaires va permettre de faire briller le soleil.
Oui, et il y a la notion d'égalité aussi.
La notion d'égalité, de fraternité,
voilà,
de liberté. On retrouve effectivement... Alors le Front populaire, c'est aussi... évidemment la dimension républicaine. Tout à fait, contre ces ligues fascistes qui s'en prennent à la gueuse. Hein. La République, c'est la gueuse, c'est le régime qui est détesté. Hein. Rappelons que parmi ces fascistes, il y a parmi ces ligues d'extrême droite, il y a des monarchistes, il y a des gens qui veulent effectivement qui veulent la peau de la République et qui l'auront finalement en 1940.
Oui. Hein.
Alors voilà. Justement, ils l'auront en 1940 et Léon Blum va passer en procès. Et donc, Catherine, je te propose de lire ce que Léon Blum déclare devant ses juges au procès de Rion en 1942.
Est-ce que tu peux nous rappeler quand même ce que c'est que ce procès ?
C'est que Léon Blum a été arrêté par le gouvernement de Vichy et il est jugé, comme avec d'autres, donc il y aura notamment Pierre Mendès-France, comme Édouard Daladier, comme responsable de la défaite.
Oui.
Le Front populaire est rendu responsable de la défaite.
On a très peur des suites finalement de la succession et on veut les évincer.
Ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés et Léon Blum sera déporté à Buchenwald. D'ailleurs, dans le livre où se trouve cet extrait, le livre de Pierre Birnbaum, il y a un chapitre que je conseille de lire où la vie qu'a vécu Léon Blum à Buchenwald qui est tout à fait édifiant. Mais donc, devant ces juges, Léon Blum évoque le contexte des premiers congés payés donc de l'été 1936.
Alors voici ces mots, les mots de Léon Blum rapportés donc dans cet ouvrage. « Je ne suis pas souvent sorti de mon cabinet ministériel, mais à chaque fois que j'en suis sorti, j'ai traversé la grande banlieue parisienne et j'ai vu les routes couvertes de ces théories de taco, de moto, de tandem, avec des couples d'ouvriers vêtus de pull vert assortis, et qui montrait que l'idée de loisir réveillait chez eux une sorte de coquetterie naturelle et simple. Tout cela me donne le sentiment que par l'organisation du travail et du loisir, j'ai malgré tout apporté une embellie, d'éclaircies dans des vies difficiles, obscures. Qu'on ne les avait pas seulement arrachées au cabaret, qu'on ne leur avait pas seulement donné plus de facilité pour la vie de famille, mais qu'on leur avait ouvert la perspective d'avenir, qu'on avait créé chez eux un espoir.
Voilà, donc cet espoir, Pierre Birnbaum poursuit en évoquant l'impressionnant courrier que Léon Blum a reçu pendant et après l'été 1936, avec des milliers de cartes postales qui lui sont envoyées par des vacanciers.
Alors oui, par exemple, il y a des extraits de ces cartes postales qui disent « Cher président et camarades, des camarades en congé payé, dans votre beau Roussillon, dans notre beau Roussillon, me chargent de vous exprimer leur respectueuse reconnaissance. » Ou « Au citoyen Léon Blum. » Ou encore « Vive les vacances et Monsieur Léon Blum, un ouvrier reconnaissant. » Cette carte postale de la plage de Douarnenez, on les aura quand même, courage, et attendons la fin. Les vacances sont belles malgré tout.
Ah, c'est intéressant ce passage parce que ça fait clairement allusion à ce qui se passe en Espagne pendant le mois d'août 1936.
D'accord.
Les gens sont en vacances mais suivent de façon un peu inquiète.
Ils sont toujours
l'évolution de la situation espagnole.
Mm-hmm. Encore une autre citation de carte postale. Au citoyen Léon Blum, merci pour les congés payés. Et respectueux souvenir des congés payés, camarades des usines Renault et galeries Lafayette. Et puis alors il y a l'extrait d'un dernier courrier, très, très touchant je trouve, que je vous lis donc. Cher monsieur, j'ai 17 ans et je reviens de faire un beau voyage que je n'aurais jamais fait sans vous. Vous dire la sensation nouvelle pour moi de me sentir libre et de ne plus entendre cette coche d'usine et ce roulement de machine et de ne plus voir certains visages hargneux. Enfin, de me sentir libre et respirer à plein poumon et de créer partout ma joie. Monsieur, cela est bon, je ne l'oublierai jamais. Mon père m'a dit que c'était grâce à vous et au Front Populaire si j'avais eu des congés payés. Alors, cher monsieur, laissez-moi vous remercier.
Alors, le ton reste très respectueux. Il y a presque un discours un peu, un arrière-plan religieux. Voilà. Une déférence et un respect, une piété presque. Hein. Cher monsieur, laissez-moi vous remercier. C'est grâce à vous si j'ai eu les congés payés.
Oui, c'est un peu comme une prière de remerciement.
Voilà,
en fait.
C'est une prière de remerciement. Alors, donc, j'ai rappelé tout à l'heure le contexte de la déclaration de Léon Blum. Hein. Donc, il est prisonnier et il va être déporté. Donc il évoque devant ses juges cette espèce de, comme il dit lui-même, d'embellie qu'a représenté le Front Populaire et
qu'ont
représenté les congés payés. Et voilà, il est fier finalement de ce qu'il a réalisé à juste titre, alors qu'on est dans un contexte de la guerre qui est particulièrement difficile. Alors il faut rappeler les congés payés, comme on l'a dit tout à l'heure, n'étaient pas quelque chose d'évident. Ce n'était pas une revendication aussi évidente que ça dans le mouvement ouvrier. Parce que, en fait, depuis les origines de l'industrialisation, le mouvement ouvrier se base, certes, pour une fixation de la durée du travail, pour une limitation de la durée du travail, mais c'est plutôt la limitation de la durée hebdomadaire et de la durée quotidienne aussi, mais hebdomadaire. Alors, l'idée des congés payés, elle émerge de façon large dans les années 1910. Mais en réalité, des salariés qui bénéficiaient de congés, il y en avait déjà depuis le milieu du 19e siècle. Alors, on peut penser bien sûr aux enseignants. Mais les fonctionnaires de l'État bénéficient de congés payés par un décret impérial du 9 novembre 1853.
Donc c'est ancien, il y a déjà
quelque chose qui existe. Et différentes catégories d'employés de bureau et de commerce obtiennent cet avantage dans les premières années du XXe siècle. En fait, ce sont surtout les ouvriers. C'est la seule catégorie qui est à peu près entièrement tenue à l'écart. Et alors, il y a une citation que je voudrais donner ici, qui est faite d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Laverne, délégué général de la Confédération de la production française, c'est le MEDEF de l'époque, qui dit que les ouvriers, on est le 30 juin 1926, les ouvriers fournissent un travail essentiellement physique, qui depuis l'introduction de la journée de 8 heures ne peut être qualifié d'excessif, et qui est largement compensé par le repos hebdomadaire et les journées de fête, tandis que le travail intellectuel de l'employé, avec une tension nerveuse continuelle, exige, lui, un repos de quelques jours.
Oui.
Donc voilà, la distinction est faite. Hein, les employés, ils y auront droit, mais pas les ouvriers. En tout cas, c'est ce barrage qui est fait par une partie du patronat.
Alors du coup, on disait, je te coupe, mais tout à l'heure en aparté, on disait, c'est quand même cette histoire des congés payés, une histoire de citadin. Et c'est vrai que dans le premier exemple que j'ai lu, c'est un paysan qui se réjouit de cette avancée, mais finalement, le monde agricole va être un des derniers finalement à bénéficier de cet avantage-là, parce que longtemps, les paysans n'auront pas la possibilité de prendre quelques jours de vacances, et même encore, dans la mentalité paysanne, j'allais dire, comme ça l'a été longtemps dans la mentalité ouvrière, la valeur travail est tellement forte, c'est tellement par ça qu'on se valorise, que le loisir, ça reste un peu un plaisir coupable.
Alors, je ne sais pas si je te suivrai sur cette histoire de valeur travail, parce que je pense qu'elle existe aussi dans le monde ouvrier.
Ah, j'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Hein.
Mais déjà, pour les paysans, il y a une contrainte, hein,
oui.
Notamment par rapport au bétail, on le sait bien. Il y a peut-être sans doute aussi une question de cadre. Qui explique qu'on n'a pas éprouvé ce besoin aussi vite que dans le milieu citadin. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est d'abord une revendication de citadin. Et je dirais même qu'on peut faire une gradation, puisque c'est d'abord une revendication d'ouvriers de la région parisienne.
Ah, oui, oui.
Et par exemple, dans notre région, ça n'apparaît pas tant que ça, parce que pourquoi le week-end, les ouvriers stéphanois, ils filent
non,
à la campagne
sur les bords
sans
de Loire.
Problème. Et en plus, à l'époque, on a des petits trains qui partent petit peu dans toutes les directions.
Le tram même qui va loin.
Oui, le tram qui va loin. Alors que c'est vraiment une revendication d'ouvriers parisiens. Et d'ailleurs, c'est les ouvriers du métro, enfin les salariés du métro plus exactement, les salariés des compagnies d'électricité parisiennes qui, au début du XXe siècle, obtiennent les premiers congés payés. En général, c'est aux alentours d'une dizaine de jours. C'est aussi beaucoup les ouvriers à statut, les ouvriers des compagnies de gaz, par exemple, les ouvriers municipaux, les salariés municipaux. Dans l'industrie privée, c'est beaucoup plus tardif. C'est beaucoup plus tardif et la revendication, elle commence à émerger vraiment dans les années 1920. Alors, pourquoi si tardif? La guerre a sans doute joué un rôle aussi, parce que au lendemain de la guerre, la journée de 8 heures est acquise. Et donc, on va pousser vers d'autres revendications. Mmh. C'est un petit peu le jeu normal. Et puis aussi parce qu'au lendemain de la guerre, il y a la création du Bureau international du travail. Et qu'à l'intérieur du Bureau international du travail, on a des débats sur ce sujet. On a des débats sur ce sujet. Et en 1926, par exemple, on a l'Autriche, la Finlande, la Lettonie, pays indépendant à l'époque, la Pologne, la Tchécoslovaquie, ont déjà adopté des lois fixant des congés payés. L'Italie fasciste aussi, alors avec pas la même motivation, l'Italie fasciste, puis en 1933, l'Allemagne nazie accorde des congés payés dans un cadre extrêmement organisé. Hein. Les ouvriers sont encadrés pendant leur loisir comme ils sont encadrés pendant le travail.
Oui, c'est un espace de liberté sinon, donc c'est pas
possible.
Voilà,
exactement. Mais en 1926, pourquoi j'insiste sur cette date? Parce qu'en 1926, quelque chose qui est peu connu, il y a déjà une loi qui a été proposée en France par un monsieur que les Stéphanois connaissent bien, il s'agit d'Antoine Durafour.
D'accord.
Et la loi a été votée, refusée dans un premier temps. Antoine Durafour est à l'époque ministre du Travail. Il la repropose en 1931. Alors, il est maire de Saint-Étienne depuis peu de temps, mais il est député. Il la repropose au Parlement. Elle est votée par le Parlement en 1931, mais le Sénat va la rejeter. Et à l'époque, le Sénat, sous la Troisième République, le Sénat, c'est une institution extrêmement puissante. C'est lui qui va faire tomber justement le Front populaire en 1938. Donc on est dans cette situation en 1936, quand se produit la victoire électorale, que cette question des congés payés est en débat. Plus ou moins évident, hein, comme dans les négociations, Stéphane Sirot, qui a étudié le sujet, montre que chez les ouvriers parisiens, il y a seulement 3% des grèves qui évoquent les congés payés. Mmh. 3% des grèves, même chez les ouvriers parisiens.
Oui.
Hein. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas prioritaire. Mmh. Et c'est l'élan du Front populaire.
C'est la volonté politique et l'élan du
Front
populaire.
Qui va faire quelque chose de prioritaire.
Ouais, d'accord.
Donc 26 précurseurs.
Antoine Durafour.
Antoine Durafour. On revient à 36, oui. Et les congés payés, et les textes lus, extraits, démontrent aussi cet élan de liberté qui se présente alors. Alors, la liberté et les congés payés sont aussi le développement des loisirs. Alors, c'est Léo Lagrange, par exemple, sous son impulsion, et sont les loisirs, les sports, qui ne sont plus réservés à une minorité, finalement, de privilégiés. C'est la jeunesse en plein air. Alors, il y a sur cette époque des films, par exemple, celui de Jean Duvivier, La Belle Équipe, qui montre des chômeurs en extase devant une affiche « Faites des sports d'hiver, stockez votre santé ». Et puis, on va écouter ce titre-là, « Allons au devant de la vie », qui devient l'hymne des premiers congés payés et qui célèbre, vous allez l'entendre, le pain, la paix et la liberté aux raisons d'une espérance qui s'éveille, mais d'une illusion aussi.
Déjà quand fit l'aube vermeille, au premier feu d'un nouveau jour, déjà la grande ville s'éveille, on brille et debout à son tour.
Devant de la vie, cette proclamation de cette chanson qui a un côté un petit peu c'est émouvant, en même temps un peu pompeux,
oui.
mais c'est bien effectivement cet état d'esprit du Front populaire qui est transcrit dans cette chanson. Tu as bien fait de nous la choisir, Lionel.
Là, on voit encore l'unité dont tu parlais tout à l'heure, hein, cette volonté de montrer cette unité, c'est le cœur mixte, hein, cette mixité dont on parlait aussi au début de l'émission.
Et c'était long.
Ça tombe bien juste pour préciser, parce que c'est interprété par l'harmonie et cœur de la voix des nôtres.
Voilà, ah oui.
C'était juste pour préciser de qui était aussi assuré l'interprétation de ce titre.
Merci.
Oui, donc dans ce contexte de l'embellie dont parlait Léon Blum, ça nous amènera à discuter de ce qu'a duré le Front populaire.
Mmh.
Et finalement... De comment évoluent ces conquêtes du Front populaire.
Oui.
Alors je crois qu'il faut on a une difficulté à fixer une vraie date de fin du Front populaire. Pour certains, souvent des historiens qui sont plutôt liés à la droite, le Front populaire s'arrête avec l'arrivée au pouvoir de Pétain, enfin avec plus exactement le vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940, avec ces gens disent de façon un peu perverse, c'est la chambre du Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Alors c'est une vision de l'esprit extrêmement, une vision d'histoire qui est extrêmement détournée, parce que cette chambre qui, enfin ces députés sénateurs qui votent en 1940, on en a exclu les députés communistes, oui. Il y a beaucoup de députés de socialistes qui sont absents, et l'essentiel de ceux qui ont voté contre, ils sont que 80, c'est vrai, mais ce sont des gens de gauche quand même, ce sont des gens qui... Donc en fait c'est une majorité de droite qui a voté pour les pleins pouvoirs à Pétain, il faut le rappeler. Alors le Front populaire, on peut avoir une vision extrêmement réduite. En fait, on peut dire qu'il n'a duré finalement que juin et juillet 1936, août 1936. Parce que les difficultés du Front populaire, elles vont d'abord naître sur le plan international. Et le coup d'État de Franco le 18 juillet 1936 et le développement de la guerre à partir de la fin juillet, début août 1936, pèse énormément sur l'atmosphère du Front populaire, parce que les composants du Front populaire vont se diviser là-dessus. Mmh. Les communistes sont pour l'intervention, les radicaux sont totalement opposés à l'intervention, et les socialistes, un petit peu comme d'habitude, ils hésitent entre les deux. Ouais. Et Léon Blum va proposer la non-intervention, tout en aidant de façon assez significative quand même, en fournissant des armes de manière détournée au Front populaire. Difficulté internationale aussi, parce que la menace de l'Allemagne hitlérienne ne cesse de grandir, et que le gouvernement du Front populaire va faire quelque chose pour laquelle il n'a pas du tout été élu, c'est-à-dire qu'il va se lancer dans un programme d'armement dès le mois de septembre 1936.
Oui, donc c'est la nationalisation dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, et puis surtout un investissement énorme dans la fabrication d'armes, oui. Parce que l'Allemagne vient de décider de prolonger la durée du service militaire, elle réarme à toute allure, et on se rend compte qu'il y a un danger énorme qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc ça va peser. Va peser aussi la montée de l'inflation, qui va ronger toutes les conquêtes de salaire, 40% pour les plus bas salaires. Mais l'inflation va galoper à 15-20%, et petit à petit, ces augmentations de salaire vont être grignotées par l'inflation. Les 8 heures, enfin les 40 heures, plus la semaine de 40 heures, elles sont remises en cause dès 1938, justement en raison de l'effort de guerre. Oui. Donc on impose aux ouvriers de retravailler beaucoup plus longtemps, 48 heures, 50 heures, 52 heures. À tel point que le 30 novembre 1938, alors que Léon Blum n'est déjà plus au pouvoir depuis un certain temps, il y a une grève très dure, dans la région stéphanoise, elle a été très dure, une grève de 24 heures contre la remise en cause des 40 heures, qui va être brisée. Mmh. Et il y a des centaines et des centaines d'ouvriers de la manufacture qui sont révoqués à la suite de cette grève. Mmh. Donc, les augmentations de salaire, les 40 heures, sont remises en cause. Et... les congés payés, dans un premier temps, ils sont remis en cause, et notamment avec l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain. Alors on va écouter un extrait d'un discours que Pétain prononce le 20 juin 1940, avant même le régime de Vichy, où on voit l'état d'esprit dans lequel ce régime s'installe.
Moins fort qu'il y a 22 ans, nous avions depuis moins d'amis. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de notre défaite. Le peuple français ne conteste pas ses échecs. Tous les peuples ont connu tour à tour des succès et des revers. C'est par la manière dont ils réagissent qu'ils se montrent faibles ou grands. Nous tirerons la leçon des batailles perdues. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur.
Alors là, vraiment, on a toute la rhétorique que Pétain va utiliser autour de cette valeur travail dont on parlait tout à l'heure, qui est complètement... qui est un raccourci idéologique incroyable.
C'est le « tu travailleras à la sueur de ton front ».
Oui.
C'est vraiment le discours chrétien culpabilisateur. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Hein. La victoire dont il parle, c'est évidemment la victoire de 1918. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. Donc voilà, c'est clairement les mesures du Front populaire qui sont visées ici, et notamment la mesure des congés payés, la décision de voter donc ces congés payés. On a voulu épargner l'effort et on rencontre aujourd'hui le malheur. Donc, il y a tout ce discours extrêmement culpabilisateur et moralisateur. Mmh. Et donc Pétain, il est chef du gouvernement, mais il n'a pas encore installé le régime de Vichy. C'est le 10 juillet 1940, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a déjà toute l'idéologie du régime qui est incluse dans ce discours, dans cet extrait de ces discours. C'est le discours du 20 juin 1940. C'est le discours dans lequel il annonce aux Français « J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités ». Donc c'est le discours qui annonce l'armistice. Voilà, donc le Front populaire se retrouve au banc des accusés. Léon Blum est jugé à Rion et le régime de Vichy, évidemment, sous Vichy, il n'est pas question de congés payés. On a 1 500 000 jeunes Français qui ont fait des camps en Allemagne.
Camps de travail.
Ça n'a rien à voir avec les congés payés, bien sûr.
Hein.
sans parler effectivement des gens qui sont partis pour le STO et ensuite pour la déportation politique et raciale.
Alors justement, du coup, au lendemain de la guerre, on est dans quel état d'esprit par rapport à tout ça?
Alors évidemment, le lendemain de la guerre, programme du CNR, on efface, bien sûr.
Alors,
Vichy,
CNR, Conseil national, voilà,
Conseil national de la résistance. On efface ces mesures de Vichy et le CNR a un programme extrêmement ambitieux.
Social.
De restauration des règles en ce qui concerne la durée du travail, de réinstallation des congés payés. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, à partir de 1946-47, les congés payés sont vraiment devenus un moment fort des Français, à tel point qu'ils seront augmentés d'une semaine en 1956, une quatrième semaine en 1968, parce que j'ai oublié de dire que 36, c'est 2 semaines de congés payés. Donc 56, troisième semaine, 68, quatrième semaine, 80, cinquième semaine.
Oui.
Donc, on ne revient pas, mais on accentue. Mmh. C'est des allongements qui effacent en quelque sorte, qui dénient toute réalité au discours de Vichy, qui démente en fait que Vichy. Et pourquoi le démente-t-il? Tout simplement parce que on se rend compte très vite que les congés payés vont être le facteur d'un développement formidable de tout un secteur économique.
Eh oui.
Le tourisme, bien sûr. Et puis le secteur automobile à partir de 1947-48. Hein, la 4 chevaux devient la voiture de l'évasion.
La Nationale 7.
La 2 chevaux, la Nationale 7, bien sûr. Avec beaucoup de retard en plus, parce que les autoroutes, elles ne sont véritablement mises en train que début des années 60. Hein. Il y a encore des gros bouchons. Alors, la réalité sociale et la vérité vécue par les Français va aller plus vite que ce que le gouvernement et ce que les pouvoirs publics vont anticiper sur le plan des loisirs.
Oui, et alors ça va être le développement de l'hôtellerie, bien sûr.
Développement de l'hôtellerie, développement des transports, du train, bien sûr, les transports ferroviaires, des transports en car. Alors déjà 1936, c'est intéressant si vous regardez la presse locale, la loi est votée donc le 20 juin 1936 et dès le mois de juillet on commence à avoir des publicités pour des séjours en car, donc direction les Pyrénées, direction la Côte
des
d'Azur,
voyages organisés.
Direction les Alpes. Alors c'est des séjours de 4-5 jours, voilà, du mercredi au lundi par exemple. Donc, c'est là, tout de suite il y a un marché qui se crée, incontestablement. Et puis l'hôtellerie, bien sûr.
Alors je pensais aussi au mouvement de jeunesse dont parlait Lionel tout à l'heure. Tu nous parlais du mouvement Léo Lagrange et tout ça. Donc il va y avoir un redémarrage, me semble-t-il, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est la grande période des colonies de vacances. Et puis aussi peut-être de tout le mouvement des comités d'entreprise et des loisirs qui vont être aussi organisés par les comités d'entreprise, avec les villages vacances et tout ça.
Oui, alors deux temps. Léo Lagrange, c'est 36, hein, les billets à tarif réduit, 40% pour les billets de congés payés. Et
les billets de train, tu veux dire ?
Les billets de train, oui. À tarif réduit, les billets, ce qu'on appelle les billets congés payés. Toi, oui. T'es trop jeune pour avoir connu ça. Moi, j'ai encore connu ça. Quand je partais, quand j'étais un peu plus jeune que maintenant, j'ai connu les billets de congés payés. Mais on avait droit à un billet de congés payés chaque année quand, en tant que salarié, à tarif réduit. Et puis, les colonies de vacances, tu as raison, les mouvements des auberges de jeunesse.
Oui.
Donc, tout ça, c'est 1936 et ça va se perdre. Perpétué après. Par contre, ça ramène à la question que tu posais tout à l'heure, les comités d'entreprise, c'est une création des réformes de 45-46.
Du Conseil national de la résistance.
Voilà, du Conseil national de la résistance. Et c'est effectivement, tu as raison, un certain pourcentage, 1,5 ou 2% de la masse salariale, consacrée aux comités d'entreprise qui vont faire, notamment dans les très grosses entreprises, Électricité de France, pour ne pas la nommer, Renault, SNCF, vont créer donc une activité, enfin des centres de vacances tout à fait intéressants pour les salariés. Mmh. Tout à fait. Donc voilà, un salarié, un secteur économique qui est créé à partir de ce tourisme auquel personne ne pensait.
Oui, oui.
Enfin, personne. En tout cas, à droite. La seule chose qu'on disait, c'est que les congés payés vont désorganiser les entreprises, les congés payés vont réduire l'activité, la production française, alors qu'on a démontré depuis que le congé payé va, au contraire, contribuer à reconstituer une capacité productive et une productivité des travailleurs qui était moindre lorsqu'ils travaillaient 12 ou 13 heures par jour et qui n'avaient que le dimanche pour se reposer.
Mmh. Oui, et puis du coup, c'est une inversion de la façon dont on voit les choses économiquement, c'est-à-dire qu'au départ, les loisirs, c'était réservé à une classe qui avait les moyens de se payer des grands hôtels, d'aller au sport d'hiver et d'avoir la voiture qui permettait tout ça. Donc on privilégiait un tourisme d'élite,
oui.
Cher et luxueux, oui. Alors qu'ensuite on va privilégier un tourisme de masse qui va être moins rentable en apparence à l'unité, mais comme l'offre est beaucoup plus large, puisque ceux qui peuvent y prétendre sont plus nombreux, du coup c'est devenu une véritable économie, une véritable industrie.
Oui, d'ailleurs, de ce côté-là, je pourrais dire de façon anecdotique qu'il y a une rencontre entre ces deux images, puisque au moment où la loi des congés payés est votée, il y a une délégation d'hôteliers de Haute-Savoie qui protestent auprès du gouvernement en disant mais les grèves qui ont lieu en ce moment entachent l'image de la France et nous avons eu plein d'annulations d'anglais, d'allemands qui devaient venir, etc. Donc voilà, effectivement cette clientèle UP qui fréquentait les palaces de Chamonix ou de la Côte d'Azur, on est au moment où les deux vont se rencontrer.
Mmh.
Et tout à fait. Voilà, sur cet aspect particulier du passage d'un tourisme d'élite à un tourisme de masse. Mmh. Après, le tourisme d'élite va se projeter un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Antilles, par exemple.
Oui, avec le Club Med, tout ça. Bon. Alors du coup, peut-être qu'on pourrait faire un parallèle, il nous reste quelques minutes, un parallèle avec la situation d'aujourd'hui. En fait, les 80 ans du Front Populaire, et on est quand même en ce printemps 2016, dans des revendications autour de la loi travail,
oui.
Qui ne sont pas très très éloignées de tout ça, finalement, à la veille d'un départ en vacances.
Oui, alors ce que j'y vois surtout, c'est la remise en cause de la notion de contrat de branche, de convention collective. Ça, c'était une des grandes décisions du Front Populaire, la création des conventions collectives. Aujourd'hui, la loi El Khomri envisage de revenir sur cette idée. La deuxième chose, est-ce que le mouvement du Front Populaire peut être comparé à celui d'aujourd'hui?
Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais
je ne pense pas, il y a un élan, un enthousiasme qui n'est peut-être pas aussi évident dans la France d'aujourd'hui, où on est plutôt dans un climat assez pessimiste. Mais il y a effectivement cette l'idée qu'il faut se battre pour défendre ses intérêts.
Voilà. Ça, c'est les acquis, les travailleurs.
Et les acquis, voilà.
Alors peut-être que Avant de reprendre quelques minutes pour parler de l'agenda,
oui.
On pourrait avoir une petite pause musicale un peu rafraîchissante. Oui. Et...
Voilà, alors peut-être très vite avant très de vite, retrouver
oui,
l'agenda.
Un extrait.
Mais en effet, moi je suis assez... finalement, je te rejoins en tout cas dans cette comparaison avec 80 ans passés et aujourd'hui. Ces avancées sociales, ces acquis sociaux se sont faits aussi au prix de luttes et des preneurs d'otages d'hier, finalement. Alors, avec les avancées sociales et finalement ces acquis sociaux d'après-guerre, alors avant ces avancées sociales, il y a eu la peste brune. Avant la peste brune, il y a eu la scarlatine. On va revenir justement sur cette chanson rafraîchissante interprétée par Ray Ventura, qui justement aussi interprétait des chansons dès le printemps et l'agitation exceptionnelle de l'époque, de printemps 36, de grandes grèves qui commençaient et que Ray Ventura pastichait avec la grève de l'orchestre, par exemple. Mais il y a effectivement cette chanson aussi parce que le temps arraché au travail a permis aussi de rêver, de danser, de s'aimer, de s'amuser, et ça vaut tout de même mieux que d'attraper la scarlatine.
Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien, tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mordora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, « Mais vous m'attrapez les seins !» Je lui ai répondu, « Madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. »
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le doigt au pont d'Alma.
On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline.
On va vous annoncer l'agenda en vous rappelant d'abord que l'émission du Grémos continuera l'année prochaine, le troisième jeudi de chaque mois. Alors dans l'agenda, j'aimerais signaler, donc parce qu'il nous reste très peu de temps, l'émission, l'exposition de Regards sur Saint-Étienne à partir des travaux de 9 photographes stéphanois. Visible seulement jusqu'à samedi, salle Sacco et Vanzetti de la Bourse du Travail, avec des travaux qui représentent les espaces urbains, l'école et écoliers, les travailleurs et les travailleurs sociaux et les travailleurs, les artisans. Bien, une exposition qu'il faut absolument que vous alliez tous voir.
Donc c'est une exposition organisée par la Galerie Noir et Blanc, c'est ça ?
Exposition organisée par la Galerie Noir et Blanc, qui d'ailleurs propose d'autres images aussi, Galerie Noir et Blanc, rue Brossard.
Très bien. Et puis il y a aussi le prolongement de l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine, qui se trouve aux archives municipales de Saint-Étienne, et qui donc sera prolongée jusqu'au 30 septembre. Donc pour ceux qui ne sont pas encore allés la voir, on vous y invite vivement, c'est une belle exposition. Et puis, puisqu'on anticipe un petit peu la question de la rentrée, il y aura aussi, au mois de septembre, une quinzaine organisée autour de l'écrivain Kateb Yassine, qui était aussi un écrivain militant de gauche et qui a abordé aussi cette question du travail et des loisirs des travailleurs.
Et pour en revenir au Fonds populaire, donc le 6 octobre 2016, l'IHS CGT organisera un petit colloque sur le Front populaire avec plusieurs intervenants, dont moi-même, à la Bourse du Travail.
Ah, très bien, au mois d'octobre.
Le 6 octobre.
Et puis comme Catherine, tu parlais de ces questions d'immigration avec la caserne Catania-Yassine, cette caserne cosmopolitaine pardon, qui se prolonge jusqu'au 30 septembre, la rentrée sera aussi marquée par les journées du patrimoine, qui
oui,
seront autour
sûr.
De la question de la citoyenneté également. Ce sera l'occasion de l'aborder à nouveau dans le cadre de l'expo Saint-Étienne cosmopolitaine et les archives municipales, bien sûr. Mm-hmm. Et puis tout cela aussi va pouvoir permettre d'assurer transition avec le mois de novembre et notamment le forum régional des Noirs d'immigrés, Trace,
oui,
qui devrait
sûr.
Aussi avoir lieu à l'automne prochain.
Ça sera, alors le 4-5 novembre à peu près, nous aurons une journée organisée, je dis nous parce que je fais partie des organisateurs avec les archives municipales, justement pour clore un petit peu cette période d'exposition qui a été aussi une saison culturelle sur Saint-Étienne autour de cette question de ville cosmopolite. Et on en profitera donc pour faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé sur cette saison et en même temps de voir comment ça peut se prolonger à travers d'autres projets.
Oui, bilan
sachant
et
bilan voilà, et bilan et perspective. Sachant que la Biennale Trace cette année est sur la question de toutes les interrogations que peut poser cette expression de crise des migrants et de la mise en parallèle des figures des migrants d'hier et d'aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Alors pour
en reparlera.
Pour la table ronde, ce sera le 4 novembre, ce sera le 4 novembre au matin. On peut noter déjà ce temps d'échange, de réflexion. Et l'après-midi, avec des rendez-vous qui seront proposés également à la Cinémathèque, mais on en reparlera d'ici la saison prochaine, donc, et la rentrée radiophonique prévue. On parlait d'exposition tout à l'heure, juste avant Jean-Michel. Il y a, je crois, l'expo toujours en cours du côté du Parc Musée Curieux de la ville de Saint-Étienne, avec la très belle installation des photographies de Félix Thiollier.
Oui.
Je crois qu'elle est toujours visible. Et cela me permet juste aussi d'aborder l'actualité du musée de la mine et du site Curieux, puisqu'on a parlé de rêves. Parlons de rêves et de villes avec Rêveurs d'univers, les villes. C'est une exploration littéraire, poétique et musicale qui est proposée par Dominique Chenet, Patrice Latanzi, et Dominique Lantin. C'est joué ce soir, demain et samedi à 20h30. Et c'est gratuit. C'est au Parc Curieux, donc site musée de la mine de Saint-Étienne. Jean-Michel.
Et juste pour terminer, le 4 octobre, donc le Grémos s'associera au site dit et à la librairie L'une et l'autre pour recevoir l'historienne Michèle Rio-Sarcet. Mais nous en reparlerons à la rentrée.
On termine encore juste très très vite l'actualité parce que c'est aussi l'appel du 18 juin. Hein, alors ce 18 juin, ce samedi, on a parlé de résistance. Un grand résistant et député sénateur de la Loire, président du Conseil général en la personne de Lucien Neuwirth, va donner et prêter son nom à une place publique. Ce sera sur le parvis de la gare de Château-Creux et ce sera célébré, inauguré ce samedi 18 juin après-midi. Ça c'était juste pour la petite info locale. Et puis simplement encore terminer avec l'actualité militante et citoyenne. Il y a un festival du cinéma citoyen qui se déroule au cinéma Méliès Saint-François et place Jean Jaurès avec de beaux films à l'affiche jusqu'à fin juin, des films qui font aussi l'objet souvent de rencontres et de discussions comme ce jour, ce soir, au Méliès Saint-François. Il y a la projection débat du film Comme des lions qui revient sur la lutte des ouvriers de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine. Il y aura la participation de Philippe Julien qui est ancien secrétaire du syndicat CGT de PSA Aulnay et puis le comité départemental pour la relaxe des 8 de Goodyear également qui sera présent. Voilà, ça c'est pour ce soir, mais ne manquez pas jusqu'à fin juin les différents films à l'affiche dans le cadre de ce festival. Il y a le film 600 euros, un film documentaire d'Adnan Traga. Merci patron, le film de Ruffin. Faut savoir se contenter de beaucoup, qui est sorti hier, sur les figures de Noël Godin, l'Entarteur, et Jean-Marc Rouillant d'Action Directe, OEX, bien sûr. Et Quelle était verte ma vallée, ou Coup de tête encore, de vieux films, là aussi remis au goût du jour, finalement, dans le cadre de ce rendez-vous. Voilà, on va terminer sur ces infos, et puis simplement cette dernière, parce qu'on a écouté La Voix du Front Populaire, c'est une compilation, un disque qui est disponible. C'est l'essentiel des chansons souvent gouailleuses qui accompagnèrent la victoire du Front Populaire en 36. C'est une sortie Milan Musique de ce printemps 2016. Merci à vous, Jean-Michel.
Merci, Lionel.
Et Catherine, on retrouve le Grémos, comme vous l'avez dit, la saison prochaine en rendez-vous mensuel radiophonique. Mais on rappelle tout de même qu'il faut se rendre sur le site internet grémos.l'autre.net pour retrouver là aussi toutes les informations et l'actualité de l'association et les émissions mises en ligne. Passez de bons congés payés et on se retrouve en septembre ou octobre prochain. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Mais je l'aime.
Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît.